Nous allons ce matin procéder à la lecture de quelques versets dans la première épître de Pierre au chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Voici donc la lecture de ces quelques paroles dues à la plume de l'apôtre Pierre. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pierre, dans ce passage, revient sur une idée déjà exprimée au verset 3. Nous n'allons pas, bien sûr, revoir tout ce que nous avons lu et essayé d'approfondir au cours des semaines passées, mais rappeler simplement que l'apôtre revient sur la régénération, sur la génération nouvelle ou sur la création nouvelle ou, si vous préférez encore, sur la nouvelle naissance. Le texte l'inclut ici au verset 23. Vous avez été régénérés. Vous êtes nés de nouveau. Cette réalité, vous le savez, a été l'objet de l'honnête et profonde interrogation de Nicodème dans l'histoire rapportée dans Jean au chapitre 3. Naître une nouvelle fois. Comment la chose est-elle possible? Au fil des lignes que nous avons parcourues depuis quelques semaines déjà, il apparaît que cette chose est rendue possible parce que une rançon sacrificielle a été offerte par Dieu pour délivrer le pécheur. Cette rançon, qui favorise la libération, n'est autre, nous disaient les derniers versets vus ces temps-ci, n'est autre que le sang précieux de Jésus-Christ. N'est autre donc que le don de la vie du Fils de Dieu. Ainsi, par les versets 20, 18, 20, l'apôtre explicite une affirmation déjà avancée au début du chapitre, lorsqu'il dit à ses lecteurs qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc la parole est explicitée derrière. Pour quelqu'un qui ne comprendrait pas cela, il découvrira donc dans la suite du texte que Pierre fait allusion au don du Fils de Dieu, au don de Jésus pour le pardon des péchés. À présent, c'est une autre image qui apparaît. Non plus celle du sacrifice, mais celle de la semence, celle de cette graine qui va et qui est apte, qui a la possibilité de reproduire, de donner naissance à une vie de la même nature que la sienne. Toutefois, si Pierre invoque l'idée de semence, Il l'utilise en faisant la même distinction qu'il a fait juste quelques versets avant en rapport avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ n'a rien de comparable avec les choses périssables. Et il parle de l'argent et de l'or, puisque nous n'avons pas été sauvés par de l'argent et de l'or, choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Et ici, il va mettre en parallèle cette même image de périssable et d'impérissable. Ici, ce sera corruptible et incorruptible. Les choses reviennent en fait dans la même orientation. Il relève le caractère de cette semence qui est différente de toutes les semences que nous connaissons, d'une nature tout à fait autre, puisqu'elle est incorruptible. Nous savons que toute semence jetée en terre doit mourir pour produire du fruit. Jésus lui-même l'a dit. Nous savons que la semence en question va se décomposer, va se vider de sa substance pour donner l'aliment nécessaire à la plante qui est en train de naître et qui produira des fruits semblables à celui qui l'a produit au moment même. Ici, la semence invoquée est une semence qui est capable de produire une vie de sa propre nature sans rien perdre de ce qu'elle est. Elle est en mesure de donner la vie sans la perdre elle-même. Elle est incorruptible. Elle est la parole de Dieu, dit le texte. Elle est de la nature même de Dieu, d'un Dieu vivant, d'un Dieu permanent, d'un Dieu en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Elle est de la même nature. Elle jouit de toutes ses prérogatives, du début à la fin, de ce que nous pouvons appeler du début à la fin, puisque pour Dieu, cette notion n'existe pas. Mais du début à la fin, elle demeure toujours la même. Pensez aux premières pages de l'Écriture. Qu'est-ce qui les caractérise? La puissance de la parole de Dieu. Il dit que la lumière soit. Et la lumière est. Il dit et la chose est. C'est ainsi que va résumer le psalmiste au psaume 33 cette œuvre de Dieu. Dit, Dieu dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Nous avons lu dans Ésaïe tout à l'heure cette parole qui dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. Ce pourquoi ou ce à quoi elle était destinée. Et c'est cette parole qui est ici présentée comme la semence qui régénère. Ainsi donc, cette parole de Dieu qui est vivante est une parole de vie. Et je crois que nous pouvons dire tout simplement qu'elle est vivifiante parce qu'elle communique cette vie. L'annonce de la bonne nouvelle, à laquelle est fait allusion le verset 25, l'annonce de la bonne nouvelle met en œuvre cette parole. Elle la proclame. Et cette parole, entendue par des auditeurs, va être en mesure de créer chez eux quelque chose de nouveau, un être nouveau. Mais, et c'est là où Dieu nous montre qu'il tient compte de nous, si la lumière n'a pas eu d'autre possibilité que d'être parce que Dieu l'ordonnait, lorsque Dieu nous fait entendre sa parole créatrice, il nous laisse la possibilité d'y répondre. Nous nous devons de l'écouter, nous nous devons aussi d'y répondre. Car la parole de Dieu a ceci de particulier, c'est qu'elle est et reste absolument contraignante. Dieu parle, pas pour le plaisir de parler. Il y a, vous le savez, parmi les êtres humains, des moulins à paroles. Il est impossible de les arrêter. Mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu parle pour dire quelque chose. Dieu parle pour communiquer quelque chose. Dieu parle pour nous transmettre quelque chose. Et lorsqu'il a parlé, et lorsqu'il a dit, lorsqu'il a communiqué, lorsqu'il a transmis, il attend le retour. Il attend l'écho à sa voix. La parole est contraignante. Elle exige une réponse et attend cette réponse. L'auditeur, tout auditeur de l'Écriture, doit se déterminer par rapport à elle. On peut le faire sans répondre, puisque la non-réponse est une réponse. Traité par le silence, traité par le mépris, l'offre de Dieu est une réponse. Jésus dira simplement qui n'est pas pour moi et contre moi. Donc, il attend que nous nous manifestions pour lui. Si nous ne nous manifestons pour lui, cette parole créatrice, cette parole qui régénère, cette parole qui transforme, sera inopérante, nulle et non avenue pour nous. Nous ne pouvons pas la taxer d'être incapable de faire ce qu'elle dit. Nous ne pouvons pas accuser Dieu d'avoir prononcé des paroles en l'air si nous n'avons pas répondu. Elle est inopérante. Si nous n'acceptons pas de donner une réponse ou de prêter une oreille attentive, il ne peut rien se produire. Nous avons noté mercredi que Dieu parle le langage des hommes, mais que le changement se produit lorsque l'homme sensible à l'action de l'Esprit de Dieu dans sa vie répond. Mais ce n'est pas un message dont on ait connu les termes avant. Nous connaissons tous le sens des mots. Les inconvertis, les gens ignorants même du texte biblique, peuvent lire le texte et comprendre au moins, j'allais dire au premier degré, ce qui est dit. Il n'y a pas de mots qui ne soient pas perceptibles. Mais ce qui se produit, c'est que le sens réel des mots va apparaître lorsque la personne reçoit la parole favorablement et lorsque le Saint-Esprit va agir dans son cœur pour en faire une parole qui régénère. Ainsi en a-t-il été ici. Qu'est-il demandé des auditeurs? Eh bien déjà, au premier chapitre, verset 2, il est question de devenir obéissant. C'est écrit, nous l'avons vu. L'obéissance apparaît encore une fois au verset 14 et revient ici au verset 22. Dieu demande de nous non seulement que nous entendions cette parole, non seulement que nous la recevions, mais que nous la gardions dans le sens du fait de la mettre en pratique, obéissant à cette parole. Il y a un cantique que j'aime beaucoup et dont je me permets de vous lire ici juste quelques mots. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Et tout est de la même veine dans la suite du cantique. Veux-tu goûter à la puissance créatrice de la parole de Dieu? Il n'y a pas d'autre chemin que celui d'une écoute obéissante. Il n'y en a pas. Obéir à cette parole, c'est non pas vaguement adhérer à un système de pensée, mais c'est répondre librement, volontairement, à ce que Dieu nous a fait connaître et qu'il présente lui-même comme étant la vérité, non pas simplement une vérité parlée, mais une vérité vécue. Lorsque Jésus dit à ses disciples « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est l'expression concrète que lorsque le Seigneur nous demande de croire et d'obéir à cette vérité, il nous demande d'emboîter le pas à celui qui est la vérité. Il nous demande de marcher à sa suite. « Suivez-moi !» disait Jésus aux apôtres qui lui ont immédiatement emboîté le pas. Fait assez extraordinaire et unique d'après les connaissances que j'ai des témoignages des enfants de Dieu, ma mère a été amenée à la réflexion, puis à la conversion, lorsqu'elle a lu dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, cet appel de Jésus s'adressant aux disciples et leur réponse. Et elle s'est interrogée. Elle s'est dit, mais quel est cet homme? Quelle est sa nature? Si par le simple fait de son parler, de son invitation, suis-moi, les personnes se lèvent et le suivent. Et cela l'a tellement interpellée qu'elle s'est mise à l'écoute de ce Jésus et qu'elle a elle-même été délivrée. Elle est devenue disciple de Jésus-Christ. À partir de là, d'autres diront que c'est Jean 3,16 qui les a touchés, d'autres diront que c'est la conviction de péché qui les a interpellés. Elle, c'est simplement l'autorité qui émanait de cet homme et qui lui a dit, mais quel est-il pour pouvoir parler ainsi? La parole de Dieu est créatrice. Elle est vérité. C'est pourquoi elle est en droit d'attendre une réponse de notre part. Ainsi, l'obéissance vient ici de nouveau dans le texte de l'apôtre Pierre. Et elle a un résultat dans le texte. Je suis donc en train de reprendre le texte, dans l'autre sens. J'ai commencé par le bas, je reviens vers le haut. Quel est le résultat? La purification des âmes. Le mot âme, dans le texte biblique, est synonyme de vie, synonyme de personne. D'ailleurs, dans notre langage aussi, le Creusot compte quelques 26 ou 27 000 âmes, ou habitant, ou personne. La forme verbale qui est ici utilisée suggère un événement déjà accompli, mais entraînant des conséquences durables. Quel est cet événement? C'est la purification de la vie. C'est le changement de la conduite. En obéissant à la vérité, l'homme permet à Dieu de mettre de l'ordre dans sa vie, de le laver. Le mot purifier pourrait être traduit par laver. De le défaire de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, porte atteinte à son intégrité morale, ou physique, ou intellectuelle. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, dira l'Épître aux Hébreux, et le corps lavé d'une eau pure. L'œuvre de cette parole reçue va être une œuvre de libération. Le fruit qui doit en résulter apparaît ici. C'est la suite du texte. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Voilà. Ici, je vais me permettre ce que l'on pourrait appeler dans une projection un arrêt sur image. Nous allons nous arrêter sur ce texte parce qu'il y a deux mots, trois mots qui mériteraient quand même un tout petit peu d'explication. D'autant plus qu'ils sont différents, même s'ils ont des sens, si deux d'entre eux ont des sens très proches l'un de l'autre. Je vais donc m'arrêter à ces mots. Ils traduisent, le mot français traduisant ces mots-là ici est unique. C'est le mot amour. Or en grec, dans le texte biblique, il y a deux mots différents. Et le grec en a même trois pour parler de l'amour. Il y a le mot eros, dont nous avons fait érotique, et là vous avez tout compris, qui parle de l'amour dans les désirs des sens, ce mot est absent du Nouveau Testament. Il est grec, mais il est absent du Nouveau Testament. Les deux autres sont présents. Le premier, c'est philéo, un verbe, et les mots qui en découlent. Ce mot philéo signifierait, si j'ose dire, aimer d'amitié, affectionné. Et nous pourrions prendre bien des références qui nous le rappellent, mais dans presque toutes, la traduction en français, la nôtre en français, met le mot amour, alors qu'il faudrait mettre autre chose. Par affection fraternelle, dit Romain, au chapitre 12, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres, rivalisant d'estime réciproque. Notre texte dit par amour fraternel. Un peu plus loin, dans le texte d'un Thessalonicien, au sujet de l'amour fraternel, le texte utilise le mot philéo, c'est la philadelphie en fait, l'amour des frères. Il serait plus juste de traduire l'affection fraternelle. Ainsi en est-il de deux ou trois autres textes. Ainsi, le texte fait apparaître qu'il existe au sein du peuple chrétien cette relation privilégiée, ces liens spécifiques qui unissent les membres d'une même famille ou d'un même cercle d'amitié. Ce sentiment qui les rend proches les uns des autres, sensibles les uns aux autres, qui leur permet s'entraider, qui leur permet de s'assister, de s'intéresser, de pouvoir s'aider littéralement lorsque les choses vont mal, et c'était le cas du temps de la lettre. Les lecteurs étaient malmenés, si j'ose dire, eh bien, cette proximité affective qui les liait les uns aux autres leur permettait de mieux supporter les épreuves. Le contexte difficile va mettre en valeur l'interdépendance dans la relation fraternelle et aider ces gens à se resserrer les uns contre les autres, pour aller de l'avant. L'autre mot qui est utilisé par amour, c'est un mot dont le Nouveau Testament, auquel le Nouveau Testament va donner un sens peut-être plus élevé, plus accompli. C'est le mot agapao qui a donné agapé, qui donne agape. C'est le verbe utilisé dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, c'est ce verbe-là. C'est le verbe qui est utilisé dans 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est encore le mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens 13, traduit communément par charité. C'est ce mot-là, toujours le même, qui revient. Il montre un amour plus épanoui, plus total. Je reviendrai donc après sur ce verset, après avoir noté encore une fois un autre mot. traduit dans notre Bible par sincère. Sincère. Le mot grec est un mot composé qui devrait être traduit littéralement sans hypocrisie. Mais il faut quand même se souvenir que le mot hypocrite, chez nous, a une connotation très désagréable, très mauvaise. Être traité d'hypocrite n'est pas nécessairement flatteur. Mais dans le texte grec et à l'époque, ce sens-là n'existait pas. Car l'hypocrite, à l'époque, qui était-ce donc? Eh bien, c'était simplement, d'abord, quelqu'un qui donnait une réponse ou une réplique sur scène. En fait, l'hypocrite, c'était l'acteur. C'était le comédien. Ça n'a aucune connotation mauvaise. Sinon qu'il joue un personnage qu'il n'est pas. D'où le sens devenu dans de nos jours, quand on dit à quelqu'un espèce d'hypocrite, c'est en train de me présenter une image qui ne correspond pas à la réalité. Mais au début, c'était simplement l'acteur, c'était le comédien. Alors, dans ce contexte-là, permettez une traduction libre de ce passage tel que je vous l'offre maintenant. Ayant purifié vos âmes, vos êtres, vous étant lavés de vos souillures par votre accueil et votre soumission à la vérité pour avoir une affection fraternelle sans comédie. Alors aimez-vous intensément les uns les autres d'un cœur pur. Chassez la comédie. Si le Seigneur qui vous a parlé a pu vous libérer, puisque vous avez obéi, il vous a lavé, alors ayez entre vous, manifestez entre vous une affection sincère, sans aucune comédie, sans aucune façade, simplement avec pureté, avec profondeur, sans duplicité, car le mot duplicité veut dire d'être double. Donc, un amour ou une affection simple. Cette affection simple, qui est le résultat normal, logique, de la purification de l'être suite à l'obéissance à la vérité, va trouver son prolongement dans l'amour. Ainsi, pour avoir un amour fraternel sincère ou une affection fraternelle sans comédie, aimez-vous ardemment, ou le texte pourrait être traduit par intensément, ardemment les uns les autres. C'est un des buts de la régénération. C'est une des manifestations normales, logiques, attendues de l'œuvre créatrice de Dieu dans nos vies. Vous connaissez le texte des paroles de Jésus. Celui-ci est dans la droite ligne, dans le droit fil. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour ou l'affection que nous pouvons, que nous devons nous témoigner, parce que ce n'est même pas une possibilité, c'est une loi qui s'impose, devrait attester que nous sommes à Jésus-Christ. Cet amour fraternel est la conséquence directe de l'amour que Dieu nous a témoigné. Et je vous invite alors à parcourir la première épître de Jean. Je ne vais pas le faire ce matin, je vous invite à le faire vous-même et à voir combien souvent Jean revient à cela. Aimons-nous les uns les autres, dira-t-il, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous avez bien compris cela. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. L'amour doit trouver sa place dans nos cœurs, car s'il n'y trouve pas sa place, c'est que nous n'avons pas goûté à l'amour de Dieu. Mais l'affaire est sérieuse. Et Jean continuera en disant que prétendre aimer Dieu que l'on ne voit pas, sans aimer son frère que l'on voit, c'est un mensonge. Bien-aimés, nous allons donc simplement retenir ce matin que si nous avons obéi à la vérité, nous avons bénéficié de la purification de notre être pour avoir de l'affection les uns pour les autres, sans comédie, et afin de pouvoir au travers de cela grandir dans l'amour. C'est un fameux programme. Je suis heureux de savoir que dans bien des circonstances, il s'est fait jour au milieu de nous. Vous y avez goûté, moi aussi. D'autres y ont goûté. N'est-il pas bienfaisant de se savoir aimer, d'être l'objet de l'affection des frères et des sœurs, de leur prévenance, de leurs interventions, de la manifestation de leur intérêt? Je ne suis pas en train de favoriser les démarches de la curiosité mal placée, non. Je parle d'un intérêt réel, d'un amour vrai, qui effectivement se soucie de l'autre et qui, selon les verbes que vous connaissez dans ma bouche, veille sur l'autre plus qu'il ne le surveille. Vous avez fait la différence. Car nous devons effectivement veiller les uns sur les autres. Nous allons essayer de continuer dans cette optique de la lecture de l'apôtre Pierre, de la lettre de Pierre, et essayer de progresser. Mais pour aujourd'hui, je pense que nous avons en cela un sujet de méditation suffisamment profond. Que Dieu nous aide à bien en comprendre et en mesurer le sens. Amen.